Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Modicum et iam non videbitis me et iterum modicum et videbitis me. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps et vous me verrez. Chers fidèles, nous pouvons, comme les apôtres, nous demander que signifie ce qu'il nous dit là? Que signifie cet encore un peu de temps? Jésus parlait, bien sûr, d'abord de sa mort prochaine. Il voulait dire, dans peu de temps, je serai livré aux Juifs, je subirai ma passion, je mourrai et vous ne me verrez plus. Mais encore un peu de temps, et je ressusciterai, et de nouveau, vous me verrez. Cependant, ces paroles ont une portée bien plus étendue. Le vénérable Bède, saint Augustin et d'autres commentateurs expliquent que ce peu de temps dont parle notre Seigneur désigne toute la vie présente. Ici-bas, on ne voit pas Dieu. Il reste caché derrière le voile de la foi. Mais encore un peu de temps et nous le verrons. Cette vie, aussi longue qu'elle puisse être, n'est que bien peu de choses en comparaison avec l'éternité. Pour Dieu et pour ceux qui voient Dieu, 1000 ans sont comme un jour qui est déjà passé. L'homme est comme un petit poisson rouge dans un aquarium. Donc cet aquarium peut paraître au poisson plus ou moins grand, même très grand. Mais si vous versez son aquarium dans l'océan, le petit poisson rouge se rend compte tout de suite qu'en réalité, cet aquarium n'était rien du tout. De même, à notre mort, nous serons plongés dans l'océan de l'éternité. Et nous verrons cette vie terrestre autrement. Elle aura passé en un clin d'œil. Donc, notre vie sur cette terre est très courte. Voyons comment cette vérité est reçue différemment par les mondains et par les vrais chrétiens. Pour les premiers, elle est désolante. Mais les vrais chrétiens y trouvent un motif de patience dans les épreuves et de détachement dans la prospérité. D'abord, cette pensée est désolante pour les mondains, car elle signifie que leurs plaisirs frivoles auront bientôt une fin. C'est pourquoi le monde fait tout pour oublier l'éternité, pour s'empêcher de réfléchir sur cette réalité qui l'obligerait à se tourner vers le ciel. Le mondain se met avec ardeur à la recherche de distractions et de divertissements. La musique en permanence, les jeux, les recherches inutiles sur Internet, films où on passe des heures à ignorer Dieu, à s'imprégner des maximes du monde et à se laisser hypnotiser par la fantaisie et le mensonge. Et quand le Saint-Esprit lui rappelle doucement la pensée de la brièveté de la mort, de la vie, au lieu de profiter de cette grâce pour entrer en lui-même et implorer la miséricorde de Dieu, le mondain invoque cette même brièveté de la vie comme prétexte pour s'abandonner aux joies folles du monde. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est le refrain des pêcheurs de toutes les époques de l'histoire du monde. Et il n'y a pas de pire aveuglement. On peut lire dans les chroniques du XIVe siècle qu'au moment où la peste noire sévissait dans les villes. On peut trouver des mondains impénitents qui, voyant les gens mourir autour d'eux et sachant que ce serait bientôt leur tour, ils partaient dans la campagne avec leurs amis pour faire la fête pendant les quelques heures de vie charnelle qui leur restaient. Et ces orgies passagères étaient immédiatement suivies par une éternité en enfer. Leur joie s'est vite transformée en tristesse. Mais c'est exactement le contraire que notre Seigneur nous promet dans l'Évangile aujourd'hui. Il nous dit, « Tandis que le monde se réjouira, vous serez affligés, mais votre affliction se changera en joie. » C'est une antithèse que les pères de l'Église ont souvent mise en relief. Ici-bas, les païens se réjouissent et les chrétiens pleurent. Mais après la mort, ce sont les païens qui pleureront pour l'éternité et les chrétiens seront dans la joie. Donc pour nous, la pensée de la brièveté de la vie est une consolation. Et non seulement une consolation, mais c'est quelque chose de très utile à méditer. Dans l'adversité, elle nous donne un motif de patience, et dans la prospérité, elle nous donne un motif de détachement. D'abord, un motif de patience. Cette vie est un combat. Nous sommes dans une vallée de larmes, et le découragement nous guette constamment. Où puiser la force et la patience pour supporter tant de tribulations? Ceux qui ont une grande foi et un amour héroïque de Dieu se réjouissent de souffrir afin d'expier leurs péchés et de mériter plus de gloire au ciel. Mais il faut avouer que cela n'est pas toujours très facile. Quand l'épreuve risque de nous écraser, nous pouvons nous appuyer sur la pensée que nos souffrances auront bientôt une fin. Parce que nous savons tous qu'une situation pénible est plus facile à supporter quand on sait qu'elle va bientôt finir. Et de plus, nous savons par la foi que nos peines sont non seulement de courte durée, mais qu'elles sont sans proportion avec leur récompense éternelle. Saint Paul le rappelle aux Corinthiens, « Notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Et c'est un motif de détachement dans le temps de prospérité aussi. L'adversité nous expose aux murmures et au découragement, mais la prospérité est bien plus dangereuse, car elle nous expose à l'oubli de Dieu et du ciel. Par la prospérité et les succès, nous risquons de négliger le soin de notre âme et de nous attacher aux choses matérielles. La fortune et les honneurs peuvent facilement nous entraîner à des péchés d'orgueil, d'avarice et de luxure. Penser à la brièveté de la vie est un moyen efficace pour nous détacher des biens trompeurs de ce monde. Modicum, un peu de temps et nous mourrons. Alors il faudra tout quitter, qu'on le veuille ou non. Mieux vaut nous y préparer dès maintenant. Nous avons un bel exemple de ce détachement au milieu de la prospérité en la personne du martyr anglais Thomas More. Il était le chancelier de l'Angleterre sous Henri VIII et jouissait de tous les avantages à la cour, les richesses, les honneurs, le pouvoir. Mais il a tout sacrifié pour ne pas renier sa foi catholique, comme lui demandait le roi. Et quand sa femme est venue le voir dans son cachot pour le supplier de faire un compromis afin de rentrer de nouveau dans les bonnes grâces du roi, il lui demande, il demande à sa femme, « Combien de temps pourrons-nous jouir encore des biens et des honneurs que le roi me promet ?» Elle répond, « Mon cher époux, encore au moins 20 ans. Quoi, insensé, tu veux que pour 20 ans de bonheur terrestre, je perde le bonheur éternel qui m'attend au ciel ? Que pour 20 ans de joie trompeuse, je me condamne à une éternité de souffrance et de tourment. » Alors, pour conclure, il faut souvent avoir cette pensée à l'esprit, que nous soyons dans l'affliction, dans la prospérité, quelle que soit notre situation, nous trouverons dans la brièveté de la vie une aide puissante pour conserver l'égalité de l'âme. Nous accomplirons notre devoir avec courage dans les difficultés, avec humilité dans les réussites, et nous éviterons surtout de gaspiller ce temps précieux qui nous est donné pour sauver notre âme. Pratiquement, prenons quelques instants dans notre journée pour penser à la mort. Parfois, on a du mal à faire un peu de raison mentale. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Passer ne serait-ce que 5 à 10 minutes à nous rappeler, à nous convaincre que nous allons certainement mourir un jour, nous imaginer au jour de notre mort, nous interroger sur la manière dont nous allons juger notre vie en ce moment suprême, voilà une oraison bien faite et bien utile et qui nous aidera à pratiquer la vertu pendant la journée. Et ainsi, ces pensées qui sont le tourment des mondains seront pour nous un réconfort et un soulagement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.